Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, c'est une nouvelle édition de l'heure du crime, émission préparée par Perrine Suquet, avec Laure Broulard et aujourd'hui Alexandre Cagzan qui est à la technique de l'heure du crime. Et à la une de notre émission aujourd'hui, vraiment des histoires qui prêtent à sourire, il faut bien le dire, mais qui prouvent également que la naïveté peut toucher le plus haut niveau de l'État et les escrocs qui ont inventé les histoires dont nous allons vous parler avec mon invité, s'en sont, comme on dit familièrement, mis vraiment plein les poches. Bonjour Dominique Labarrière.
Bonjour Jacques Pradel.
Vous êtes journaliste, vous êtes venu à plusieurs reprises d'ailleurs dans cette émission, parce que vous êtes un passionné de faits divers, d'affaires criminelles, et de faits divers tout court, je vais dire, puisque là, il n'y a pas de sang, enfin, si, il y a des morts.
Il y a des morts, on va
en parler. Ouais. Et vous publiez aux éditions Pygmalion un livre absolument savoureux qui s'intitule 12 arnaques qui ont changé l'histoire. On peut dire en fait que d'abord ça existe depuis que le monde est monde et que en fait plus comme on dit plus c'est gros plus ça passe.
Ah c'est ça, c'est plus c'est gros plus ça passe. Mais vous savez tant qu'il y aura des hommes pour désirer plus d'argent, plus de gloire, plus de réputation, il y aura d'autres hommes pour leur faire croire que c'est possible et que c'est à portée de main. Donc c'est le début de l'arnaque. Avec l'arnaqueur, il y a l'arnaqué. Comme vous le disiez, il y a une espèce de candeur, de naïveté. Parfois collective, qui s'explique mal, qui est du domaine de l'irrationnel, où des gens se mettent à croire.
Ou du désir, hein, parce qu'on le dit dans le domaine politique, hein, les promesses n'engagent que ceux qui veulent y croire. Bon, il y a des tas de gens qui ont cru sincèrement. Madoff, par exemple, on va pas parler, nous, on va pas refaire l'affaire Madoff, mais vous en parlez, évidemment, elle est au cœur de votre livre. C'est un exemple très parlant.
C'est 30 ans de duperie avec un cynisme absolument incroyable. C'est un sociopathe, hein, Madoff. Il est pas sympathique, c'est pas une affaire souriante, comme celle dont nous allons parler, parce qu'il y en a de souriantes, mais il y en a de pitoyables, comme Port-Breton, Madoff ou les emprunts russes, qui ont ruiné des milliers de gens et qui ont préparé la guerre 14. Ouais. Madoff, il trompe les gens pendant 30 ans, et ce qui me fascine, c'est qu'il trompe des gens qui sont fortunés, qui sont entourés de conseils financiers, qui sont les meilleurs du monde, qui ont de grands avocats.
Et après, on se dit, mais comment personne n'a pas pu voir le grain de sable, en fait, quoi.
Dès le lendemain de l'aveu de Madoff, ce qui m'a beaucoup fait rire, puisqu'il faut prendre ça aussi en riant, tous les experts financiers des bourses du monde disent, mais on avait tout compris depuis longtemps.
Oui,
seulement
sûr.
Ça marche depuis 30 ans. Donc il y a un moment où le rideau se déchire, il se déchire sur un petit détail le plus souvent, ce qui fait tout le sel de ces arnaques.
Alors, ensemble, on va parler tout à l'heure dans cette émission de deux affaires absolument énormes. L'une, c'est les fameuses avions renifleurs, quand même. Hein, le président de la République a été emmené dans le plus grand secret en 1979, en Champagne, avec une sécurité maximum pour assister à une expérience qui devait lui prouver que en mettant dans des avions, donc d'où le titre avion renifleur, cette nouvelle invention, on allait pouvoir détecter des puits de pétrole, la France allait pouvoir échapper au choc pétrolier, et en prime d'ailleurs, je crois, repérer des sous-marins atomiques.
Aussi,
il y avait un aspect, ils avaient pensé à tout. On va parler des faux carnets d'Hitler, parce que ça a été quand même quelque chose d'énorme, et d'énorme aussi au niveau financier. Mais je voudrais qu'on profite de l'émission pour faire découvrir à ceux qui nous écoutent des escroqueries dont ils n'ont certainement jamais entendu parler. Alors, on va en raconter une toute première tout de suite, et pour cela, faire un peu de géographie. Il faut imaginer l'île de Bornéo, en Indonésie.
Oui.
Cette île, en majeure partie d'ailleurs occupée par une jungle quasiment impénétrable, va être au centre d'une des plus belles escroqueries de la fin du XXe siècle, puisque c'est en 1997 qu'on apprend qu'une compagnie minière assez obscure, faut dire,
très obscure,
vient de trouver un filon, mais fabuleux, un filon d'or.
Oui, alors un filon de 4000 tonnes d'or. Ça n'est pas rien, ce serait le plus gros filon. Là, vous disiez, plus c'est gros, plus ça marche. D'ailleurs, on découvre le plus gros filon de l'histoire de minière, dans cette jungle de Bornéo. Et cette concession a été rachetée trois ou quatre ans plus tôt, à une firme australienne qui l'a vendue pour 3 francs 6 sous, en disant, il n'y a rien là-dedans, c'est pas la peine. Et d'un seul coup, au printemps 1997, cette obscure compagnie du Canada commence à publier des relevés de prélèvements qui font monter son cours en bourse, qui passe, tenez-vous bien, de moins d'un dollar l'action en bourse à 300 dollars en 4 mois. Sa capitalisation vient de 24 milliards de dollars. À l'arrivée des courses, il y a 6 milliards de dollars canadiens qui vont disparaître. Tout ça avec une manipulation qui est due, nous dit-on, à un seul homme qui est un personnage extraordinaire. Mais toutes ces arnaques, les 12 arnaques que je raconte, il y a toujours des personnages de roman là-dedans, des personnages fabuleux. Mais celui-ci, il s'appelle Mac Guzman. Mac Guzman, c'est un phénomène. C'est un phénomène, c'est un ancien type qui aurait pu avoir une carrière extraordinaire de basketteur professionnel.
Ouais. Mais il a eu un accident, je crois.
Il se fait tabasser. Il s'est fait tabasser. Une nuit de fête, parce qu'il est basketteur professionnel, mais fêtard. Ouais. Donc il traîne la nuit. Il a une marotte, il chante il chante.
Il va dans les karaokés. Voilà. Et il chante tout le répertoire de Frank Sinatra.
Voilà. C'est ça, qu'il a un petit verre dans le nez, il assassine Frank Sinatra. Il y tient beaucoup. Donc il rentre la nuit, il se fait tabasser, il y a une jambe, malheureusement, il est infirme, il ne peut plus jouer au basket. Et alors il va se reconvertir dans l'exploration minière à Bornéo. Et il voyage beaucoup pour sa firme à travers toute l'Asie. Et dans chaque pays où il séjourne, il épouse une femme. Ouais. Il a 4 femmes. En fait, donc ça, chacun sait que déjà une, ça coûte un peu. Donc quatre, ça coûte beaucoup.
C'est entre les boîtes de nuit et les quatre épouses, il faut de l'argent.
Voilà, donc il a énormément besoin d'argent et il va avoir l'idée, nous dit-on, lui tout seul, de mettre des pépites d'or qu'il achète à un orpailleur du coin dans des relevés, de déplacer les relevés pour faire monter la possibilité d'extraction jusqu'à faire le plus grand. Et alors on dit, mais c'est fabuleux, voilà qu'on a trouvé le plus grand gisement aurifère du siècle. Ouais. Alors on l'invite à Toronto au grand symposium
Oui, parce que, pardonnez-moi, la compagnie minière, évidemment, choisit un symposium international pour révéler l'information. On avait ça depuis 3 ans, maintenant on peut le dire publiquement. C'est le moment d'acheter nos actions.
Et l'autre, il est invité à Toronto, alors il fait son show. C'est un véritable show et la presse spécialisée est fascinée. Il y a des articles qui sortent dans le monde entier. Mais seulement, il continue ses karaokés, il continue à picoler la nuit dans les boîtes. Donc sa compagnie dit que ce n'est pas très convenable pour une affaire cotée en bourse assez haut niveau. On le renvoie à Bornéo.
Il parle aussi, il commence, il donne des indications. Et ils ont des malaises, les gens de la société. Donc on le renvoie là-bas.
Voilà, on lui dit qu'il faut que tu rentres à Bornéo.
Et alors, on le fait accompagner d'ailleurs pour être bien
sûr. On le fait accompagner par un type qui s'appelle Vega. Et là-bas à Bornéo, il va faire un check-up parce qu'il aurait une hépatite C, enfin il aurait la malaria et tout ça. Et après, pour revenir, ils prennent un hélicoptère avec son accompagnateur, je ne veux pas dire garde du corps, mais accompagnateur. Ouais. L'accompagnateur le laisse en chemin et laisse Guzman avec le pilote de l'hélicoptère continuer tout seul son chemin.
Et c'est là qu'il se passe
quelque chose d'extraordinaire, c'est que Guzman, à 600 pieds d'altitude, sauterait de son plein gré de l'hélicoptère pour se donner la mort.
C'est ce que dira le pilote de l'hélicoptère qui se pose. Il avait un passager au départ, il n'en a plus à l'arrivée.
Voilà.
Il dit, il m'a surpris, il a sauté. On va trouver son cadavre.
4 jours plus tard, on trouve le cadavre, avec les vêtements de Guzman, évidemment. Ouais. Cadavre, évidemment, en forte décomposition, le climat s'y prête, à moitié dévoré par des sangliers. Et on ne fait ni d'expertise médicale, on ne regarde pas ses dents, on ne regarde rien du tout.
Et on va l'incinérer.
On l'incinère très vite. Voilà. Et on dit, Mac Guzman est mort.
Ce salaud. Parce qu'il nous avait trompés,
C'est ça. Et le lendemain,
Parce que les actions ne valent plus rien. Parce que comment on va savoir qu'il n'y avait pas d'or dans la mine? C'est après le suicide, entre guillemets, de cet homme.
24 heures après, on dit, mais c'est bien sûr, pourquoi il s'est suicidé? D'abord, il a laissé un mot. Dans lequel on dit il s'est suicidé pour 2 raisons, son état de santé était déplorable et puis il avait le remords de nous avoir trompés. Ouais. Seulement dans le mot qui est griffonné, on ne sait pas par qui, il n'y a pas de maladie mentionnée et il n'y a pas de remords mentionné. Mais il nous a trompés, nous sommes désolés, mais nous avons perdu beaucoup d'argent, c'est pas vrai. Ouais. Ils ont empoché 6 milliards. Ouais. Et alors il y aura une espèce de procès, vous savez, dans ces affaires d'arnaque, il y a un génie pour trouver un bouc émissaire, et puis pour étouffer très vite le procès. C'est-à-dire que le procès, on parlait de Madoff, très vite il plaide coupable. Oui. Donc il prend 150 ans de prison, mais le grand procès, le grand déballage du mécanisme et des complices éventuels, il n'y en a pas. Et là, on fait une espèce de procès, et le seul qu'on ait trouvé, mais on ne peut pas l'extrader, il est aux Caïmans, aux îles Caïmans, on ne peut pas l'extrader, vous savez pourquoi? Parce qu'on va qualifier ça, non pas de crime, mais de délit. Alors pour un délit, il n'y a pas d'extradition, donc on ne l'extrade pas.
Comme ça. Alors on met tranquille, brave Jean, circuler.
Et le grand patron de cette firme, qui s'en est mis plein les poches au passage, a la bonne idée, si je puis dire, de mourir, quelque temps après, aux Bahamas.
Voilà. Alors, Alors, on va mettre des points de suspension parce que l'histoire n'est pas terminée.
Non,
parce qu'il y a après d'autres événements
qui
vont intervenir.
Est-il mort?
Vraiment, parce que l'une de ses veuves va recevoir de l'argent, un mystérieux virement une dizaine d'années plus tard. Mais enfin, c'est une des histoires absolument savoureuses que raconte dans son livre Dominique Labarrière, le livre qui vient d'être publié aux éditions Pygmalion.
Il sort aujourd'hui.
Et il sort aujourd'hui.
Merci,
merci de nous en avoir donné la primeur sur RTL. 12 arnaques qui ont changé l'histoire et c'est pas fini.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Et l'invité de l'heure du crime aujourd'hui, c'est le journaliste Dominique Labarrière qui publie donc chez Pygmalion aujourd'hui 12 arnaques qui ont changé l'histoire. L'histoire de la mine là de Buzanque, c'était un peu la mise en bouche. Maintenant, on va parler alors d'une affaire vraiment énorme dont tout le monde se souvient, je pense. Les avions renifleurs, une pantalonnade politico-scientifique dont les principaux acteurs sont un président de la République, deux anciens premiers ministres et les dirigeants d'une grande compagnie pétrolière. Et dans les seconds rôles, on trouve pêle-mêle des agents secrets, dont un ecclésiastique proche du Vatican, s'il vous plaît, un avocat international, des ingénieurs de haut niveau et deux escrocs, deux illuminés, mais enfin escrocs, qui ont réussi à vendre, écoutez bien, pour près de 100 milliards de centimes de l'époque, 1975-1981, une machine miraculeuse qui n'a jamais fonctionner. Alors, avant de revenir en détail sur le mécanisme de cette supercherie avec Dominique Labarrière, je vous propose, en quelques instants, de nous rappeler ensemble les circonstances dans lesquelles cette affaire a éclaté. Nous sommes en 1976. Cette année-là, une société du groupe ELF, l'ERAP, entreprise de recherche et d'activité pétrolière, passe contrat avec les inventeurs d'un procédé miraculeux qui doit permettre donc de détecter depuis un avion des gisements de pétrole enfouis à de grandes profondeurs sous la terre. L'invention est révolutionnaire, plus besoin de forages aléatoires, coûteux et incertains. On voit les gisements sur un écran de télévision figuré en rouge sur fond bleu. Coût du contrat d'exclusivité pour l'utilisation du procédé, 400 millions de francs, une somme énorme. Le président de l'ERAP s'appelle Pierre Guillaumin, ancien ministre des armées du général de Gaulle. Le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, lui donne son aval à cette opération qui devrait donner à la France un avantage mondial dans le domaine de la recherche pétrolière. Pendant plus de deux ans, jusqu'en 1979, des expériences se déroulent à grands frais, dans le plus grand secret, avec le groupe ELF, bien sûr, et avec surtout les deux inventeurs du procédé, un Belge, le comte de Villagas, et un Italien, Aldo Bonassoli. Malgré des résultats mitigés, il faut bien le dire, des sommes considérables sont donc englouties pour mettre au point la machine, qui se révèle très capricieuse. Les avions renifleurs, en effet, ne reniflent que des gisements déjà connus. Le 9 avril 1979, le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, assiste près de Châlons en Champagne à une expérience non concluante. Et quelques temps plus tard, un savant français, un vrai savant, lui, Jules Horowitz, qui travaille au CEA, Centre de l'énergie atomique, prouve qu'il s'agit en fait d'une énorme supercherie scientifique. Les escrocs sont confondus, il reste à récupérer l'argent et surtout, il reste à faire en sorte que le secret le plus total continue à entourer cette affaire ubuesque qui montre l'extraordinaire naïveté des pigeons qui occupent tous des postes prestigieux au plus haut niveau de l'État.
RTL, Jacques Pradel, l'heure du crime.
Et les dessous de l'affaire des avions renifleurs, dans un instant, avec l'enquête de mon invité, Dominique Labarrière.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Alors Dominique Labarrière, il faut dire que l'histoire est extrêmement complexe, elle est très drôle. Il y a beaucoup de personnages, je disais, dans les acteurs, il y a ce vicomte, il y a celui que j'appelle moi Aldo, c'est l'inventeur italien. Il paraît qu'il avait inventé avant, enfin quand on va commencer à s'intéresser à lui, un rayon de la mort ou un
truc.
Une lunette pour écouter ce que se disaient les cosmonautes dans l'espace, non
c'est voilà, ça il avait inventé deux choses absolument formidables, c'est-à-dire une longue vue qui permettait d'entendre en même temps ce que disaient les astronautes dans l'espace. Et il avait inventé inventé un rayon qui pouvait détruire la matière, avec lequel il voulait détruire toutes les bombes atomiques du monde. Et ça marchait parce qu'il avait réussi à détruire deux casseroles.
Alors, voilà. Dans les personnages, il y a aussi, je parlais des services secrets du Vatican, il y a le révérend Père Dubois, père son âme, service secret du Vatican. Il y a Jean Viollet, alors lui c'est un avocat international proche des services. Et puis alors, toute la batterie des hommes politiques, les Guillaume, les Chalandon, jusqu'au plus haut niveau de l'État.
Et même Antoine Pinet à un certain moment, puisque tout ça, il y a tout dans cette... Mais toutes ces arnaques, ces 12 arnaques, sont de véritables petits romans. Et là, il y a des personnages, il y a des agents secrets, il y a des gens de l'Opus Dei, il y a tout ça. Et voilà que ces deux génies improbables arrivent à entrer en contact avec Elf et à empocher des millions. Ils achètent un Boeing 707, ils achètent un bateau, ils achètent un
trois avions au total. Plus un hangar. Bateau de 20 mètres de long.
12 pilotes.
Bien sûr.
À temps plein. Enfin, tout ça.
Ils passent leur temps à se balader avec des spécialistes qui ont été nommés par les autorités politiques pour vérifier.
Voilà.
Mais on leur a dit, on leur a donné des drôles d'indications.
L'ordre de mission est très intéressant. J'ai retrouvé cet ordre de mission. On leur dit, vous êtes là pour comprendre, non pas pour douter. Et vous êtes là pour assister et non pas pour mettre des bâtons dans les roues. Ce qui fait dire, vous parliez de grande naïveté des politiques à l'époque, grande naïveté ou très grande rouerie. Parce que quand je regarde de près, j'ai regardé de près le rapport de la Cour des comptes, il y a un pré-rapport qui a existé, où l'on découvre que Villegas touche de l'argent d'Elf, non pas à partir de 75, mais dès 1969, et plusieurs millions.
Avant,
à quel titre? Il est déjà rémunéré par cette compagnie, bien avant la crise pétrolière. Donc ce qui fait dire à Jean Cosson, conseiller d'État, dans un ouvrage qui est paru en 86, mais à qui a servi cet argent? Alors lui, Jean Cosson accuse beaucoup Jacques Chirac, il accuse la droite.
On dit, disons les choses, on dit que une grosse partie de cet argent, de ces millions, de ces centaines de millions, de ces centaines de milliards de centimes, ont servi à alimenter la caisse noire d'un certain nombre de partis politiques.
Oui. Comme quoi, rien n'est tout à fait nouveau sous le soleil.
Ça n'a jamais été prouvé.
Mais non, ça n'a jamais été prouvé. Pour que ce fût prouvé, il aurait fallu un procès. Il n'y en a pas eu.
Alors, l'histoire est passionnante de la manière dont vous le racontez, parce qu'on est vraiment dans les coulisses de l'histoire, avec tous les rebondissements. C'est un véritable feuilleton. Il faut dire que l'affaire a été rendue publique le 21 décembre 1983 par le Canard Enchaîné. Comme quoi, il y a une presse qui sert quelquefois à faire avancer des choses.
C'est
l'enquête de Claude Péan. Le scandale devient énorme dans un deuxième temps parce que on s'aperçoit qu'il y a eu ce fameux rapport secret auquel vous faisiez allusion, mais qui est censé avoir été détruit.
Oui.
Il n'existerait qu'une seule copie sur le bureau du Premier ministre
de Raymond Barre.
Bon, en fait, il n'a pas été détruit.
Il n'a pas été détruit.
Bon. Et alors, on va revenir après aux différents épisodes. Mais d'abord, je voudrais qu'on entende quand même, on va entendre deux ou trois documents RTL de l'époque, parce que c'est très fort. Alors, il faut dire tout de suite quand même, pour le président Giscard d'Estaing, qu'il n'a pas trempé, comme on dit vulgairement, dans cette combine.
C'est-à-dire qu'il
a été, au contraire, celui qui, il l'explique d'ailleurs dans l'extrait qu'on va entendre maintenant à la télévision, en pleine bourrasque, le 22 décembre 83, le lendemain de l'article du Canard Enchaîné, il va expliquer, le chef de l'État, qu'il faut tenir compte des intérêts de la France, et vous allez entendre un Giscard d'Estaing très affecté, mais aussi, vous allez le remarquer, très combatif.
Si qui que ce soit prétend ou affirme que dans une affaire de ce genre ou de tout autre, j'ai cherché directement ou indirectement un avantage personnel, il sera poursuivi en diffamation dans l'heure suivante. Il y a une autre chose que je ne veux pas permettre, c'est l'abaissement de la France, parce que lorsqu'un secrétaire d'État vient mettre en cause un ancien Premier ministre, un ancien président de la République, sans même avoir pris la peine de faire poser une seule question à leurs collaborateurs, il prend le risque honteux de l'abaissement de la France. Eh bien, ceux qui voudront abaisser la France, ils me trouveront chaque fois sur leur route.
attention, on est en 83, Mitterrand au pouvoir, le secrétaire d'État, c'est Henri Emmanuelli, qui a parlé à l'Assemblée nationale de forfaiture.
De forfaiture, hein, absolument.
Les mots sont très durs.
Oui,
hein,
oui,
quand
de
même. Bon. Alors, donc, en fait, Giscard d'Estaing lui dit, mais revenons à l'époque. À l'époque, c'est 1979, c'est le premier choc pétrolier, oui. Ou le deuxième.
Le deuxième.
Quand on vous apporte comme ça une invention, où on vous dit qu'on va trouver, on va résoudre tous les problèmes pétroliers de la France, et en prime, détecter les fameux sous-marins.
Les fameux sous-marins nucléaires, oui.
Ça méritait en tout cas de s'y intéresser. Oui, oui. Là, il a raison. Oui, ça méritait qu'on s'y intéresse.
Surtout que le coup était parti. C'était déjà engagé. Ouais. Et le ton de Giscard d'Estaing l'a dit assez bien, l'émotion politique du moment. C'était une affaire... maintenant, on en sourit beaucoup de ces affaires. Mais ça a été une affaire politique extrêmement grave, comme vous disiez. Emmanuelli parlait de forfaiture. Enfin, ça a été très grave. Et c'est complètement en décalage avec la méthode qui sert à trouver l'imposture. Giscard d'Estaing fait un rapport après avoir vu cette prétendue démonstration en Champagne dont vous parliez, Jacques, tout à l'heure.
Ouais, ben ça, on va entendre un document là-dessus parce qu'il l'a expliqué à la télévision.
Ah bon,
hein. Il l'a expliqué, ben oui, je l'écoutais tout de suite, si vous voulez.
Oui, on l'écoute.
Oui, oui, il s'est effectivement méfié parce qu'il revient à la télé, là. On était en 83.
Ouais.
Bon, le scandale vient d'exploser. Le 12 janvier 1984, parce que l'affaire le poursuit,
C'est une affaire énorme.
Valéry Giscard d'Estaing est l'invité, ici même, du grand jury RTL Le Monde. Et en direct, vous allez l'entendre, sur notre antenne, il lit la note qu'il a rédigée à l'époque, en 1979, à l'issue de cette fameuse expérience à laquelle il avait assisté.
De retour à l'Élysée, j'ai dicté une note, que voici. Vendredi 6 avril 1979. L'impression que j'ai retirée de l'expérience à laquelle j'ai assisté à la demande de M. Chalandon et Guillaume est entièrement négative. Il ne me paraît pas vraisemblable que le dispositif présenté puisse fournir les résultats escomptés. Il me semble indispensable qu'une vérification soit faite dans des conditions qui permettraient de révéler un éventuel trucage. En particulier, l'appareil d'observation devrait être démonté et analysé à la suite immédiate d'une expérience pour déceler s'il y a ou non supercherie. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter l'engagement de ressources nouvelles et pour organiser le retour de celles qui auraient été inutilement dépensées. J'ai fait part de mes préoccupations au président du comité financier, M. Guillaume, en lui demandant de prendre dès à présent toute précaution nécessaire. Et j'ai ajouté de ma main, communiquer la substance à monsieur le Premier ministre. Ceci était le 6 avril 1979, deux mois après une intervention du ministre de l'Industrie, l'opération était interrompue.
Alors, comment l'opération s'est-elle interrompue, Dominique Lebarrière? Là, il faut raconter.
C'est
un vrai scientifique.
Ça c'est extraordinaire. Donc, à la suite de la note dont parle le président Giscard d'Estaing, là, André Giraud, ministre de l'Industrie, mandate le professeur Horowitz pour mener l'enquête, pour savoir s'il y a supercherie ou pas. Alors, on s'attend à ce que ce soit monumental, qu'on fasse des expertises tout azimut et tout ça. Horowitz, qui est un vrai scientifique, dit on va y aller tout à fait simplement. Et il convoque nos deux génies inventeurs, là. Il leur dit voilà.
On va pas partir en avion.
On va faire ça dans les bureaux.
Dans
là.
Un labo, oui.
Voilà, j'ai une règle à la main, je vous montre la règle. Moi, je vais aller dans la pièce voisine. Et puis, vous allez me montrer la règle. Alors, il prend son temps quand même pour expliquer ça. Il montre plusieurs fois la règle parce qu'il a une petite idée derrière la tête. Et au bout d'un moment, il va avec sa règle dans la pièce voisine. On donne le top. Il pose la règle. Ouais. Il revient. Et le type sur l'écran lui dit voilà la règle.
Aldo Bonassoli dit je vois la règle. Venez voir la photo.
Et Horowitz dit manque de peau, il n'y a pas de chance parce qu'entre temps, je l'ai cassé en deux la règle. Donc, je vais voir deux morceaux de règle. Donc ça ne marche pas.
Donc en fait la supercherie est énorme, grossière. En fait l'appareil faisait des photos.
Il faisait des photos, il faisait
ce qu'on lui montrait. Voilà. C'était l'appareil photo. Et après il suffisait plus comme dans un appareil photo automatique de sortir la photo.
De faire apparaître sur l'écran.
Et voilà, mais bon sang, c'est bien sûr.
Donc avec une règle cassée en deux.
C'est génial.
Comme j'ai écrit quelque part, c'est le truc qui a coûté le moins cher dans cette affaire-là. C'est des milliards qui ont été engloutis avec cette histoire-là.
Et il faut rendre à Monsieur Jules Horowitz tout le mérite de ça, parce que ça montre que quand quelqu'un ne se laisse pas avoir ni par le contexte, ni par la naïveté, mais se dit finalement les deux pieds dans la glaise, réfléchissons et voyons ce qu'on peut faire, l'expérience était bien menée, et ça s'est terminé
terminé. On n'a jamais retrouvé l'argent.
Non.
Il y a une belle formulation dans le rapport de la Cour des comptes, c'est-à-dire que nos deux inventeurs prodigieux on dit si jamais il y a retour à meilleure fortune, on remboursera.
Voilà, bon, et on attend encore, hein, en fait. Oui, alors, parce que vous avez cité tout à l'heure les trois avions, les 12 pilotes, le bateau. Il y a eu un château aussi qui a été entièrement
refait. Il a refait son château en Belgique,
je crois.
Belgique.
C'est ça, voilà. Donc l'argent n'a pas été perdu pour tout le monde.
Sauf pour Bonassoli, qui n'a jamais touché grand-chose, finalement.
Alors, Bonassoli. Alors, on va terminer avec lui, puisque vous en parlez, parce que nous avons retrouvé dans les archives de la rédaction d'RTL une interview qui est savoureuse, je dois dire, grâce au talent de notre journaliste ici d'RTL, Henri Marc. On est le 5 janvier 1984, donc voilà, l'affaire a été éventée. On sait que tout le monde s'est fichu de tout le monde et que M. Bonassoli n'a jamais rien inventé. Et Henri Marc l'invite sur RTL dans son journal et l'interroge. Alors, écoutez ce dialogue totalement étonnant.
On vous accuse d'avoir truqué les expériences, d'avoir glissé des photocopies.
Non, il n'y a rien de ça. Les Français, ils ont confisqué l'appareil. Si vous ne savez pas ça, je le dis maintenant.
Mais ils l'ont confisqué après l'expérience?
Non, avant.
Pierre Mauroy vous accuse finalement d'être un escroc.
Oui, et c'est pour ça maintenant que j'ai l'intention de présenter tout à l'Académie des sciences italienne. Et pas seulement les appareils, mais tout le dossier.
Quand ça?
Dans les jours qui viennent.
Vous n'avez pas mis d'argent de côté, vous?
Non, monsieur. Oh là là, moi je travaille très dur. Moi je connais rien. Je connais pas les prix, je connais rien. Moi, je suis vraiment de la partie scientifique.
Vous avez des références scientifiques, monsieur?
Moi je travaillais à la télévision, je travaillais beaucoup de fois à beaucoup de choses. Hein.
Est-ce que vous avez fait des études à l'Institut Fermi, comme on dit?
Moi j'ai fait des études, je travaillais à l'Institut Fermi. J'ai travaillé beaucoup là.
Vous êtes diplômé?
Non, je ne suis pas diplômé.
Eh oui, voilà, un homme qui travaillait beaucoup.
Jacques, il travaillait à la télévision, c'est-à-dire qu'il réparait des télévisions dans son village.
C'est quand même une histoire formidable. Et quand on voit comment cette histoire a grimpé au plus haut niveau d'État, quand même là, on perd un peu le sourire, hein, quand même. Alors, on va faire une pause, Dominique Labarrière, et on va ensuite aborder un autre énorme dossier où il y a escroquerie, hein, c'est clair. Il y a encore des centaines de milliers, là, en l'occurrence de marques, en jeu, et plusieurs centaines de milliers de marques. Et l'objet du délit, si j'ose dire, ce serait un journal intime d'Adolf Hitler retrouvé dans les décombres d'un avion qui se serait crashé dans un village après la guerre. On vous dit tout dans un instant.
L'heure du crime sur RTL.
Alors, on va prendre à nouveau notre machine à remonter le temps grâce aux archives sonores de la rédaction d'RTL. Le curseur est sur la date du 25 avril 1983. Ce jour-là, on lit dans le magazine allemand Stern les premières pages de ce que l'on pense être le journal intime d'Hitler. Aussitôt, évidemment, c'est une nouvelle quand même qui fait le tour du monde. Et sur RTL, Jean-Jacques Bourdin révèle l'ensemble de l'affaire.
La grande affaire du jour, la publication par le magazine allemand Stern des carnets intimes de Hitler. Depuis que la nouvelle de la découverte de ces documents est annoncée, une controverse sur leur authenticité s'est élevée dans plusieurs pays du monde. Les uns y croient, les autres n'y croient pas. Et un troisième groupe d'hitlérologues réclame des examens approfondis pour pouvoir se prononcer. Quant au magazine allemand, il commence imperturbablement. La publication des premiers extraits, on apprend par exemple ce matin que les dictateurs nazis s'inquiétaient en 1938 des manifestations contre les juifs. Elles lui paraissaient prendre trop d'ampleur. D'autres détails sont publiés sur une grossesse nerveuse d'Eva Braun. On trouve dans ces documents des indications plus intéressantes pour l'histoire. Par exemple, qu'Hitler aurait admiré Staline, Churchill et Chamberlain, mais qu'il aurait montré bien peu de considération pour Mussolini et pour Daladier.
Voilà, etc., etc. Alors, Dominique Labarrière, là, vous racontez dans votre livre la genèse de cette histoire. On va prendre notre temps. Hein, racontez-nous, parce que au centre de cette affaire, il y a l'homme qui va apporter ces documents au magazine Stern.
Oui. Là encore, comme dans toutes ces affaires, un personnage absolument fascinant d'un certain côté. Il s'appelle Gerd Heidemann, et c'est un type qui est omnibulé par tout ce qui a trait au nazisme, à la période nazie. Oui. C'est-à-dire, il recherche tous les objets, tous les souvenirs, tous les écrits. Oui. Et alors, ce qui est très étrange...
Officiellement, c'est pour... parce qu'il étudie cette période. Quoi.
Voilà, voilà. Il prétend étudier cette période. Et ce qui est assez étrange, c'est que le magazine Stern, qui est quand même un magazine sérieux, l'emploie pratiquement à plein temps uniquement pour ça. Oui. Il n'est pas journaliste, contrairement à ce qu'on a pu dire à certains moments. Il est correspondant pour le nazisme de Stern. Il a vendu à Stern un faux manuscrit de Mein Kampf. Il a remis à flot le yacht de Göring, sur lequel il donne des soirées où il reçoit d'anciens nazis. Ouais. Enfin, il est complètement fasciné. Donc, c'est le pigeon type. C'est-à-dire qu'il y a un jour, un antiquaire spécialisé dans les breloques de cette période sombre, qui lui dit, mais vous savez, j'ai entendu dire qu'il y avait des écrits d'Hitler quelque part en Allemagne de l'Est. Nous sommes encore à la période des deux Allemagnes. Ouais. Alors évidemment, lui, il monte tout de suite, il s'enflamme, et il me faut absolument ces écrits. On le laisse mariner pendant quelques temps.
Oui, ce qui montre que l'affaire a été longuement et minutieusement préparée.
Ah oui, ça a été très très bien monté, très très bien...
Il se passe des mois. Hein,
Des mois. On lui dit, mais vous comprenez, c'est très délicat parce que ça met en scène et ça met en cause un général allemand de l'Allemagne de l'Est, tout ça. Il faut être extrêmement prudent. Et enfin, le grand jour arrive, on lui dit, on va vous faire rencontrer la personne qui... Voilà. Alors cette personne-là s'appelle Conrad Gugeot de son vrai nom, qui se fait appeler dans l'occurrence Conrad Fischer, et ce type-là raconte à notre Heidemann, il lui dit, mais vous savez, il y a un avion qui en 45 est tombé dans un petit village près de Dresde, et dans cet avion il y avait des documents d'Hitler, et Hitler a été fort mécontent de la chute de cet avion.
Oui, et fort inquiet. En fait, Hitler aurait commandité le voyage de cet avion pour après la guerre. Voilà.
Pour justifier l'histoire du Troisième Reich, pour faire sa propre apologie et son histoire. Et l'autre dit, mais il faut absolument que je voie ces carnets. Vous n'allez pas voir ces carnets comme ça. Il y en a 27, il faut montrer patte blanche. Et puis voilà, et puis c'est 100 000 marques le carnet. Et puis après c'est 200 000 marques. Et après il n'y en a plus 27, après il y en a 62. Et tout ça, on passe les carnets finalement dans des pianos. Bon, des pianos qui sont fabriqués en Allemagne de l'Est, et on les passe. Et
clandestinement, soi-disant clandestinement.
Voilà.
Votre homme, là, il demande à Stern d'ouvrir ses caisses. Hein, quand voilà. Mais on lui ouvre un compte en banque spécial pour l'opération.
9 millions de marques. Ils ont acheté les carnets. 9 millions de marques. Ils ont donné 1,5 million de marques à Heidemann pour ses services. 9 millions de marques. Alors, ce personnage est très extraordinaire de Conrad Fischer, le faussaire. Vous vous rendez compte qu'il a réussi à écrire 62 carnets cohérents sur 12 années de 33 à 45. Et lorsque la police perquisitionne chez lui, elle va trouver plus de 500 ouvrages consacrés à Hitler. Et il a
compilé pour s'inspirer, pour écrire.
Il a la transcription de toutes les prises de parole et de tous les discours d'Hitler depuis les débuts. C'est-à-dire qu'il y a une espèce... Vous vous rendez compte, le travail qu'il a pu fournir. Oui. Autant on a vu qu'il y avait des types qui ne faisaient rien, pas grand chose, mettre un peu d'or dans une mine ou un truc comme ça. Oui, oui. Lui, il a bossé énormément. Et même si ce sont des faux, je pense qu'il y a dans ses écrits des choses qui pourraient être intéressantes. Il a repris tout, absolument tout, et il a réussi à écouler ça.
Alors, on va mettre quelques points de suspension. L'émission n'est pas terminée. On va prendre le temps de raconter tout ça après. Oui. Parce que je dis à ceux qui nous écoutent, pensez à deux choses. D'une part, personne n'a demandé d'expertise au départ de ces fameux carnets. Et encore plus fort, quand on sait que c'est un journal spécialisé quand même dans l'information mondiale comme Stern, personne n'est allé vérifier s'il y avait bien eu, après la guerre, le crash d'un avion dans ce petit village. Plus c'est gros, plus ça passe.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Les faux carnets d'Hitler, scoop mondial édité par le magazine Stern, ça va changer toute l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Pendant des années, Hitler a pris des notes, a raconté dans un journal intime tout ce qu'il pensait de tous les dirigeants, sa stratégie. Évidemment, l'histoire Dominique Labarrière va s'effondrer. Et d'ailleurs, va s'effondrer d'une manière assez extraordinaire. Très simple, que vous racontez dans votre livre, c'est que lorsque Stern fait à la suite de la publication des premiers carnets, une conférence de presse, il y a un journaliste qui lève le doigt et qui pose une question, mais...
Ça, c'est drôle.
La question, c'est quoi?
Est-ce que vous avez fait analyser l'encre? David Irving,
Il y a un malaise. Non. Et l'écriture, vous avez un graphologue?
L'écriture, ça un petit peu après.
Mais là, c'est l'encre. Voilà. L'encre et le papier. Voilà. Eh ben non.
Alors, ils n'y ont pas pensé. Et alors, ni l'encre, ni le papier, ni la cire du tampon avec les initiales d'Adolf Hitler sur chaque carnet, tout ça n'existait pas en 1945. Et après, il y a des Américains qui disent, mais attendez, il y a un type aux États-Unis qui est un graphologue, il dit, mais Hitler, il n'a pas fait une attaque cérébrale à un moment donné. Et quand on compare les écritures d'Hitler avant et après, il y avait des tremblements.
Qui ont été décrits par tous les témoins de l'époque.
Or, dans les carnets, l'écriture est uniforme. Oui. Donc, tout ça, vous voyez, sur des petits détails, ça tombe. Et alors, ce que je voudrais signaler, c'est quand même un personnage étonnant aussi là-dedans, qui est le professeur Weinberg. Oui. Le professeur Weinberg est allemand, mais sa famille a émigré aux États-Unis. Il est professeur d'histoire de la Seconde Guerre mondiale à l'Université de Caroline du Nord. Et dès le début, il dit, c'est pas possible. Une cohérence sur aussi longtemps, c'est absolument impossible. Au moment de Nuremberg, personne n'a parlé d'écrire intime. C'est absolument impossible. Et c'est ça qui est fascinant dans ces arnaques, c'est que celui qui dit la vérité n'est pas entendu. Même pas qu'on l'écoute pas, c'est qu'il n'est pas perceptible. Ouais. Il y a une telle intoxication, une telle cécité collective.
Ça montre aussi la fascination collective pour le personnage d'Hitler.
Voilà, mais on a la même chose avec Madoff. Il y a un économiste, Madoff américain, dont je parle et je retranscris dans le livre son analyse, qui dit dès le début, c'est banalement une chaîne de Ponzi, c'est une grosse arnaque, une bonne vieille ficelle.
Personne ne l'entend.
On ne veut pas l'entendre. Et là, on ne veut pas entendre ce professeur. Voilà. Il y a un refus. C'est ça qui est fascinant dans les arnaques. C'est-à-dire qu'il y a une cécité, une surdité collective à un moment donné. Tout le monde marche en même temps dans la même combine. Et ça aussi, c'est très inquiétant.
Alors, cela dit, vous avez parlé de, je ne sais plus combien de millions, de 9 millions de marques.
9 millions de marques.
Ça, c'est le coup. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait dépenser de l'argent à Stern, d'ailleurs, le même personnage, qui quand même, disons-le, il a été condamné à 4 ans et demi de prison.
Oui.
C'est Heidmann. Et le faussaire, lui, a 3 ans, je
3
crois.
3 ans et demi, bon. Oui.
Mais on va y revenir dans un instant. Dans le passé, il avait aussi dit à Stern qu'il avait retrouvé la trace de Martin Bormann. En Amérique du Sud. Ça coûte cher les voyages. Il est allé chercher, il n'a jamais trouvé. Ce qu'on a trouvé, c'est plutôt en Allemagne, un tibia exhumé beaucoup plus tard, en 98, je crois.
Oui, avec l'ADN.
Avec l'ADN de Martin Bormann, etc. Alors, on va entendre un autre document à propos de cette affaire, un autre document qui a été diffusé à l'époque par RTL, qui avait bien sûr suivi l'histoire. Quand on dit scoop mondial, c'est un scoop mondial. Mais ça va se dégonfler finalement assez vite, puisque l'annonce des carnets d'Hitler, c'est fin avril. En fait, début mai, le 6 mai 1983, donc à peine un mois et demi plus tard, le poteau rose a été découvert. Le gouvernement ouest-allemand annonce officiellement que ces écrits sont des faux. Et en Allemagne, ce jour-là, le 6 mai 1983, pour RTL, Marc Leroy-Beaulieu revient sur cet épilogue de cette histoire incroyable.
Le fameux journal intime d'Hitler est un faux. Les archives fédérales allemandes de Koblenz sont formelles. Les experts de la maison ont examiné, sur leur valeur historique, 7 des 60 carnets découverts par l'hebdomadaire Stern. Ils ont demandé des expertises au laboratoire ultra spécialisé de la police criminelle fédérale, le célèbre BKA, ainsi qu'à l'Institut fédéral d'examen des matériaux. Toutes les analyses concordent, si tous les autres carnets sont pareils, ils sont également faux. Dans la reliure, on a trouvé des fibres synthétiques qui n'existaient pas avant la fin de la guerre, mais surtout, en raison de sa composition chimique, le papier utilisé n'a pu être fabriqué qu'après 1955. Cela exclut donc toute authenticité des documents. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a aussi des erreurs historiques dans ce qu'il faut bien appeler maintenant le pseudo-journal d'Hitler. On en est là. Henri Danen, le directeur du Stern, a annoncé qu'il tiendrait évidemment compte de cette expertise, mais que son journal poursuivrait néanmoins la publication des documents, dont certains exemplaires se trouvent actuellement pour analyse dans les laboratoires du FBI américain. Cela dit, même si ce journal d'Hitler, annoncé avec une publicité fracassante, est un faux, l'affaire n'est pas terminée pour autant. S'il y a un faux, il y a forcément un faussaire. Qui est-il et quels sont ses mobiles? Jusqu'à preuve du contraire, l'honnêteté du Stern et de ses journalistes n'est pas mise en cause. Mais la réputation de l'hebdomadaire ne serait certainement pas amoindrie s'il donnait maintenant enfin ses sources et s'il remontait la filière.
Voilà, et en fait, Stern, donc on a dit, Dominique Labarrière, Heidemann est condamné à 4 ans et demi de prison. Oui. Il est accusé d'enrichissement personnel.
Voilà, hein, enrichissement personnel.
Et puis, l'autre, Cugeot, donc, condamné à 3 ans et demi d'emprisonnement. Il va mourir en 2000 d'un cancer du larynx.
Après s'être converti dans la fabrication de faux tableaux, qu'il appelait les véritables contrefaçons.
Ah oui, vous êtes Picasso, des Van Gogh et tout, on se refait pas, hein, finalement. Et alors, Stern, évidemment, les ventes de Stern se sont effondrées après.
Pendant des années.
Ça, c'est la vraie sanction.
C'est la vraie sanction.
Du public.
Ouais, du public.
Et on a fait le compte, vous avez fait le compte, puisque vous le publiez dans votre livre, l'estimation de la perte financière globale de Stern dans cette affaire, c'est énorme.
C'est vrai.
19 millions de marques.
Oui, oui. C'est... On parlait de cécité, mais comment toute une équipe journalistique dont le doute doit être la culture a pu aller aussi loin financièrement sans vérifier des choses aussi élémentaires. Vouloir rencontrer simplement, vous savez que le général qui était mis en cause, c'était pas un général, c'était un employé de gare. De vérifier ces choses-là, on les vérifie pas.
Et l'histoire de l'avion, quoi. On n'a même pas été voir s'il y avait eu un crash, quoi, quand même. Et alors, pour sa défense, parce que Heidemann va se battre comme un chien jusqu'à la fin. Et pour sa défense, il va dire, oui, mais bon, alors maintenant, je vais vous le dire. Vous avez fait remarquer tout à l'heure, c'était la période des deux Allemagnes. Eh bien, je travaillais pour la Stasi et on voulait,
discréditer
la presse bourgeoise.
Donc, personne ne l'a cru.
C'est une opération réussie. Voilà. Ouais. Bon. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup, Dominique.
Merci à vous, Jacques.
On a parlé de 3 des 12 arnaques qui ont changé l'histoire. C'est le titre de votre livre qui paraît aujourd'hui chez Pygmalion. Donc, il en reste beaucoup. Je m'adresse à ceux qui écoutent cette émission. Et même sur les histoires qu'on vous a racontées, il y a énormément de détails. Évidemment, parce que ça, c'est de la méticulosité de l'enquêteur. Merci beaucoup, Dominique Labarrière.
Merci, Jacques Pradel.
L'émission est terminée. On retrouve Flavie Flamand dans un instant. RTL.